Sébastien Paour pour le journal. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir à tous. Il dénonce un système qui laisse les patients sur le carreau et fait craquer les soignants, les blouses blanches des hôpitaux dans la rue partout en France, pour des bras, du temps, du matériel. Emmanuel Macron promet qu'il les a entendus et du concret pour mercredi. Reportage dès le début du journal et téléphone sonne à 19h20, Fabienne.
Et oui, avec les solutions qui sont peut-être les vôtres, est-ce que l'argent ça suffit? Combien d'argent qu'attendent vraiment les hospitaliers? 01 45 24 7000.
Au sommaire également ce soir, le feu vert des députés européens à Thierry Breton pour le poste de commissaire. Nous sommes à Bruxelles. Une œuvre n'excuse pas les fautes éventuelles de son auteur, le ministre de la Culture, à Roman Polanski, vous l'entendrez. Les Bleus du foot à un match de l'Euro 2020, France-Moldavie au Stade de France. Et puis le temps de la neige sur la Drôme, l'Ardèche et la Loire, 11 départements de la vallée du Rhône en vigilance orange, prévision à la fin du journal.
France Inter.
Ils sont en grève depuis 8 mois. Le gouvernement leur a déjà fait 3 séries de propositions en juin et début septembre. Mais les personnels des hôpitaux ne décolèrent donc pas. Ils réclament toujours un traitement de choc pour sortir de l'asphyxie, manque de moyens et dégradation de leurs conditions de travail. Ils veulent des hausses de salaire, une prime de 300 euros net par mois, la création de 10 000 postes d'infirmiers et d'aides-soignants et la réouverture de lits supprimés. Bref, un chèque. Le montant devrait être annoncé mercredi par Édouard Philippe. Il faudra que ce soit un plan d'urgence, préviennent déjà tous les acteurs de la santé à l'hôpital, qui manifestaient donc un peu partout en France cet après-midi à Pau, Rouen, Nice, Strasbourg, Toulouse, Le Mans ou encore Paris. Cortège suivi dans la capitale par Véronique Julia.
Des sirènes hurlantes pour montrer qu'il y a urgence et que le danger est imminent, c'était le message de cette journée. Pierre-Antoine est anesthésiste.
Hôpital en mort cérébrale, c'est-à-dire que le cerveau ne fonctionne plus alors que le corps continue de fonctionner. Si on continue comme ça, le corps va mourir aussi, il va finir par mourir. La mort cérébrale, c'est une urgence vitale.
Malgré la fanfare joyeuse des étudiants en médecine, l'ambiance n'est pas si gaie. Un vieux professeur nous dit même sa tristesse, car l'hôpital qu'il a connu jadis est d'après lui déjà mort. Aurélien, hématologue, est lui aussi très inquiet.
Je pense qu'il y a aussi une vraie question, c'est est-ce qu'on n'a pas des gens à différents niveaux de l'État qui en fait veulent la mort de l'hôpital public, c'est-à-dire une médecine qui rapporte plus d'argent et qui est tournée vers le privé.
Ici, on espère bien sûr que les annonces d'Edouard Philippe mercredi seront à la hauteur de l'enjeu. Pour Sophie Crozier du collectif Interurgence, le chèque devrait être ambitieux, au moins 3 milliards.
C'est autour de 3-4 milliards en réalité, parce que bah oui, ça paraît énorme comme ça, mais si vous voulez augmenter de 300 euros, ce qui est quand même la principale revendication, si on veut garder des soignants à l'hôpital pour vous soigner là à tous, il faut qu'on ait des revalorisations salariales. Ça représente à peu près 3 milliards. Donc ensuite, il y a des investissements aussi. On a pris un retard incroyable, ça vous paraît beaucoup 3 milliards, mais chaque année on fait 1 milliard d'économies sur le dos de l'hôpital. On ne peut pas continuer comme ça, donc oui, il faut un rattrapage.
Ce soir, le collectif Interurgence se dit satisfait de l'affluence de la journée et du fait que tous les métiers de l'hôpital étaient là. Une telle union, je n'ai jamais connu ça, confie un chef de service. Aux Invalides, Benjamin Chauvin, Véronique Julia, France Inter.
Voilà donc pour cette journée d'action des blouses blanches qui se prolonge désormais par une assemblée générale à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Âgés, qui pourrait décider d'une nouvelle journée d'action dans un mois ou attendre les nouvelles annonces du gouvernement mercredi? Bonsoir Cyril Graziani.
Bonsoir.
Puisqu'Emmanuel Macron, en déplacement dans la Marne où vous êtes Cyril, assure qu'il a entendu la colère et l'indignation.
Alors, à Épernay, c'est simple. Le personnel hospitalier qui a placardé à l'entrée de l'établissement urgence en grève n'a pas pu manifester car les manifestations dans la ville et autour ont été interdites par la préfecture. Si ces cris d'alarme, Emmanuel Macron ne les a pas entendus ici, ceux qui ont résonné partout ailleurs sont arrivés jusqu'aux oreilles du président. Car en plus de son déplacement dans la Marne, le chef de l'État a fait des annonces pour tenter de répondre à cette crise dans les hôpitaux publics car il considère que le plan santé 2022 présenté l'an passé ne va pas assez vite.
On ne peut pas expliquer aujourd'hui à une infirmière, un aide-soignant, un médecin, dans un service où la moitié de ses collègues ont disparu, on a un plan formidable, les pleins effets seront là dans 5 ou 10 ans, soyons lucides. Le risque, c'est que dans certains endroits, notre hôpital ne soit trop fragilisé pour pouvoir se relever dans 5 ou 10 ans. J'ai demandé au gouvernement de travailler pour un plan d'action renforcé et des décisions fortes qui seront annoncées par le Premier ministre au sortir du Conseil des ministres de mercredi prochain.
Aucun chiffrage du plan à venir, mais Emmanuel Macron, on l'a compris, est obligé de monter au front pour calmer la grogne qui s'empare du pays catégorie par catégorie et pour éviter un décembre noir qui, là encore, effraie l'exécutif. Ça se voit de plus en plus.
Cyril Graziani en direct d'Épernay avec Marcos Darras. Effectivement, les agents des finances publiques étaient aussi dans la rue aujourd'hui en grève contre le projet de réorganisation de leurs services qui prévoit 4800 nouvelles suppressions de postes et la fermeture de 1600 trésoreries sur 2000 aujourd'hui. Des suppressions de postes aussi ici à Radio France. Là, nous concerne et vous concerne, auditeurs d'Inter et des autres radios du service public. Bonsoir Alexandra Hakoun.
Bonsoir.
La direction de la Maison Ronde précise son plan de départ volontaire. 299 postes seront supprimés d'ici 2022.
Oui, 299 postes, dont une soixantaine pour lesquels la situation, si je puis dire, est déjà réglée. Des postes vacants ou des départs en retraite déjà prévus. C'est donc en réalité 236 postes qu'il va falloir trouver à supprimer sur un peu plus de 4000. En fait, ce qu'a présenté la direction ce matin, en plus des chiffres, ce sont les directions et corps de métier qu'elle souhaite dégraisser. Le tout dans le cadre d'une énorme réorganisation de l'entreprise. Pour mémoire, Radio France doit faire 60 millions d'euros d'économies d'ici 2022. Alors, impossible de tout vous détailler. Toutes les antennes sont concernées, mais par exemple la rédaction de FIP est supprimée, tout comme la totalité de ses postes en région. Le pôle Inforoute, qui sert France Bleu Paris et les antennes nationales, lui aussi va disparaître. Le Standard, le Ménage, nombre de réalisateurs. Dans un courriel envoyé aux salariés ce matin, Sybille Veil, la présidente de Radio France, explique qu'elle a veillé à limiter au strict nécessaire le nombre de départs volontaires. Pour les salariés, c'est une autre affaire. Réunis par l'intersyndicale, en Assemblée Générale ce midi, ils ont exprimé leur colère.
Ce qui est dingue, c'est que nos radios, elles vont bien, elles sont pas malades, quoi. On est en train de parler des radios du service public, qui est le premier groupe radiophonique en France, qui cartonne dans les audiences. Ces radios, c'est nous qui les faisons.
Leurs inquiétudes, surtout, et pas seulement à court terme.
On va inexorablement dégrader la qualité de nos productions. Or, on sait que c'est la tout maître de Radio France. Si demain, on fait des choses de piètre qualité parce qu'il faut les faire en moins de temps, avec moins de moyens, moins de personnes, il n'y aura plus de différenciation entre le privé et le public. S'il n'y a plus de différence, il n'y a plus de raison de financer cette entreprise.
Des inquiétudes qui ne manqueront pas d'être redites directement à Sybille Veil. Demain, la présidente de Radio France s'adressera aux salariés à 11h.
Et on verra si l'audiovisuel public vient s'ajouter aux autres colères sociales. Merci Alexandra Hakoun. En tout cas, sur les retraites, le gouvernement tente de déminer avant la journée de grève du 5 décembre. Jean-Paul Delevoye et le secrétaire d'État au transport, Jean-Baptiste Djebbari, recevront les syndicats de la SNCF jeudi prochain. Ils avaient promis de faire de nouvelles propositions avant le 22 novembre. Quant aux syndicats étudiants, ils étaient dans le bureau du secrétaire d'État à la jeunesse Gabriel Attal ce matin, après l'immolation d'un jeune de 22 ans à Lyon. Rien de concret, si ce n'est qu'ils exigent une réévaluation urgente des bourses universitaires avant demain soir.
Thierry Breton sera bien commissaire européen.
L'Élysée salue une très bonne nouvelle. Son deuxième candidat après le fiasco Sylvie Goulard est le bon. Bonsoir Angélique Bouin.
Bonsoir.
3 heures d'audition dense au Parlement cet après-midi, Angélique, et donc candidature validée par les eurodéputés.
Oui, Thierry Breton a finalement convaincu à l'issue d'un grand oral où il n'a pas été ménagé. Et cela commençait plutôt mal. Quelques phrases en anglais puis en allemand pour rappeler qu'il est un grand européen. Et l'heureux grand-père de deux petits-fils qui vivent à Berlin. Une opération séduction qui tombe à plat tant l'ex-capitaine d'industrie apparaît alors tout d'abord très tendu. Puis très vite, il aborde le sujet qui fâche ici au Parlement. Ancien patron d'Atos, groupe qui travaille avec les institutions européennes. Comment évitera-t-il tout conflit d'intérêts ?
Sur ce point précis, je n'irai pas par quatre chemins. Il n'y a qu'une solution, être radical, je dis bien radical. Je me comporterai sur ce sujet exactement avec la même rigueur et intransigeance, la même indépendance que lorsque je suis devenu ministre de l'économie et des finances en France, en provenance du secteur privé. Je vous le dis haut et fort, je n'aurai qu'une seule boussole, l'intérêt général européen.
Je me récuserai automatiquement sur les sujets financiers en lien avec Atos, ajoute Thierry Breton. Mais vu le nombre de dossiers concernés, serez-vous un commissaire fictif, lance Manuel Bompard, élu de la France Insoumise. Thierry Breton bousculé donc, mais qui retrouve tout son aplomb au fil de l'audition. Il a du talent et sur le fond des dossiers, il a assuré, admettent ses détracteurs. Stéphane Séjourné, le chef de file des macronistes, est lui ravi.
Il a su convaincre par son enthousiasme, par aussi sa capacité. On avait fait un pari avec Thierry Breton qui était le pari de la compétence. Un profil qui est un peu un profil extraordinaire pour le Parlement européen parce qu'il vient du privé. C'est un pari gagnant et je pense que c'est une bonne chose. En tout cas, il comptera dans l'intérêt général européen ici, il comptera pour la Commission.
La future commission qui devrait, sauf nouveau retard, entrer en fonction le 1er décembre prochain.
Angélique Bouin, merci en direct de Bruxelles, où l'Union européenne lance aussi une procédure contre le Royaume-Uni pour ne pas avoir nommé de commissaire. Londres avait prévenu qu'elle ne nommerait pas de commissaire avant les élections du 12 décembre. Or, la future commission entre en fonction le 1er demain à 8h20 sur Inter. Michel Barnier, invité du grand entretien, le négociateur du Brexit pour l'Union.
Il est 19h presque 10. Sébastien, la justice se repenche sur le cas Darmanin.
Le ministre des Comptes publics, accusé de viol par une femme, c'était en 2009. Gérald Darmanin a bénéficié d'un non-lieu il y a un an. Bonsoir Sophie Parmentier.
Bonsoir.
Mais la Cour de cassation rouvre le dossier, Sophie, pour une question de procédure.
Oui, une histoire de notification de courrier, le courrier de la juge d'instruction qui avait écrit le 16 août 2018 qu'elle clôturait son enquête, qui ne justifiait pas de poursuivre le ministre des Comptes publics devant un tribunal. Ce courrier, une ordonnance de non-lieu, avait été envoyé à l'avocate de la plaignante, mais pas à la plaignante elle-même, Sophie Spatz, qui accusait Gérald Darmanin de viol. Sophie Spatz avait 10 jours pour faire appel du non-lieu, mais comme elle n'avait pas reçu le courrier, elle a tardé à réagir, n'a réagi qu'au bout de 15 jours. Trop tard, avait tranché la Cour d'appel de Paris. La Cour de cassation dit aujourd'hui l'inverse, et elle oblige la Cour d'appel à se repencher sur ce non-lieu. Et si la Cour d'appel estime qu'une juge d'instruction doit poursuivre son enquête, alors la menace d'un procès continuera à planer au-dessus du ministre des Comptes publics qui, depuis le début, plaide son innocence dans cette affaire, une affaire à rebondissement. Souvenez-vous, une première enquête préliminaire avait déjà abouti à d'autres non-lieux. Depuis 2017, la plaignante ne s'étant pas présentée à 4 auditions de la police.
Sophie Parmentier. Pierre Joxe, lui, va porter plainte pour dénonciation calomnieuse. L'ancien ministre est sous le coup d'une enquête préliminaire du parquet de Paris depuis hier pour harcèlement et agression sexuelle. C'est une femme qui aidait son épouse malade à domicile qui l'accuse. Lui est visé par une nouvelle accusation de viol, Roman Polanski, qui laisse le monde du cinéma globalement silencieux au moment où sort en salle son dernier film, J'accuse. Le 7e art est embarrassé, mais le ministre de la Culture, Franck Riester, prend la parole ici au micro de Yann Calic.
L'actualité est venue nous rappeler que la loi qui trop souvent prévaut dans ce monde-là, c'est la loi du silence. Lorsque des voix s'élèvent pour briser ce silence, il faut les écouter. La présomption d'innocence est un principe fondamental de notre République. Mais je refuse qu'elle s'accompagne d'une présomption de mensonge pour les victimes. Lorsqu'elles parlent, leur parole est trop souvent entachée de soupçons, surtout lorsqu'elles révèlent des agressions commises des années, voire des dizaines d'années avant. Nous devons admettre qu'il faut du temps avant de pouvoir parler, pour aller à l'encontre, parfois des menaces, du sentiment que certains sont intouchables parce que leur œuvre les protège. Le talent n'est pas une circonstance atténuante, le génie pas une garantie d'impunité. Comprenez-moi bien, vous me trouverez toujours aux côtés des créateurs lorsqu'il s'agit de protéger la liberté de créer. Mais l'œuvre, si grande soit-elle, n'excuse pas les éventuelles fautes de son auteur. La sanction, c'est à la justice de la porter, pas au tribunal de l'opinion. L'artiste, le cinéaste, est sur le plan de la loi, un homme ou une femme comme les autres, ni plus ni moins.
Franck Riester qui recadre aussi Jean-Louis Georgelin, le général ancien chef d'état-major des armées, nommé par Emmanuel Macron pour superviser la restauration de Notre-Dame et qui auditionnait hier à l'Assemblée demandait à l'architecte de la cathédrale, Philippe Villeneuve, de fermer sa gueule. Propos pas acceptables, répond le ministre de la Culture. Le chef de l'État a promis que la cathédrale serait restaurée d'ici 5 ans. Sur ce ton, ce n'est pas gagné. Un incendie aussi ce midi à la mairie d'Annecy, en Haute-Savoie. Le bâtiment et une école voisine évacués, mais pas de blessés. Le feu serait d'origine accidentelle. Un juge d'instruction nommé dans l'affaire du coffre-fort d'Alexandre Benalla, coffre que l'ancien chargé de mission de l'Élysée avait chez lui pour stocker ses armes et qui avait mystérieusement disparu au moment des perquisitions. Cette fois, c'est officiel, les tarifs réglementés du gaz vont s'éteindre progressivement d'ici 2023. Delphine Simon, Engie, arrête de les commercialiser à partir de mercredi prochain.
4 millions de clients pourront conserver leur contrat encore 3 ans, mais à partir de mercredi, Engie n'en proposera plus de nouveaux. Idem pour les fournisseurs locaux, gaz de Grenoble ou gaz de Bordeaux. Depuis 2007, Engie n'a plus le monopole du gaz, mais l'opérateur conserve ses tarifs réglementés, fixés et régulés par l'État, des tarifs jugés contraires au droit européen par le Conseil d'État en 2017. Les 4 millions d'abonnés devront donc faire un choix entre les fournisseurs alternatifs, Eni, Antargaz, Vattenfall qui vendent le gaz au prix du marché. Un changement qui n'est pas forcément une mauvaise nouvelle car leurs tarifs sur la durée se révèlent souvent plus avantageux. Taxes comprises, ils sont en moyenne inférieurs de 8% aux tarifs réglementés selon le comparateur en ligne Je Change qui chiffre le gain pour un 100 mètres carrés à 180 euros par an en moyenne. Mieux vaut donc se renseigner en allant voir par exemple le comparateur en ligne du médiateur de l'énergie. Et si vous choisissez de ne pas choisir, pas d'inquiétude, vous basculez automatiquement sur l'offre de marché d'Engie, l'opérateur historique.
La centrale nucléaire de Cruas redémarrera progressivement d'ici un mois. EDF prévoit une remise en route dans la première quinzaine de décembre, le temps de terminer les vérifications après le tremblement de terre de lundi au Teil. À Strasbourg, les deux séismes de mardi et d'hier soir sont sans doute liés à l'homme. Une entreprise de géothermie du nord de Strasbourg suspend ses activités en attendant l'avis des experts. Faire la paix nécessite sans doute plus de courage que de livrer la guerre. Éric Ciotti, dans le texte, ne sera pas candidat à la mairie de Nice l'an prochain. Le député laisse la voie libre chez LR au sortant Christian Estrosi.
Des tirs dans un lycée de la banlieue de Los Angeles.
Un lycée de la ville de Santa Clarita, banlieue nord de Los Angeles. Un homme serait entré dans l'établissement et aurait ouvert le feu. Il y a au moins un mort et plusieurs blessés selon les médias américains. Le tireur vient d'être interpellé. Un homme de 70 ans tué à Hong Kong par une brique jetée lors d'affrontements entre manifestants pro et anti-gouvernement. Alors que la ville de 7,5 millions d'habitants est quasi paralysée pour le 4e jour consécutif, blocage de routes, de stations de métro, de lignes de bus, écoles et universités fermées également. Certains médias parlent même d'un couvre-feu pour le week-end, pas confirmé pour l'instant. L'état d'urgence pour catastrophe naturelle bientôt décrété à Venise, après la marée haute exceptionnelle de mardi et l'autre montée des eaux prévue demain, 1,40 m contre 1,87 m mardi. Les dégâts devraient se chiffrer à plusieurs centaines de millions d'euros. La cité des Doges compte 50 000 habitants et elle voit passer 36 millions de touristes par an. Il y aurait entre 3 900 000 et 4 800 000 immigrés illégaux en Europe. C'est la conclusion de la dernière étude du très sérieux Pew Research Center publiée aujourd'hui. Chiffre qui ne représente qu'environ 1% de la population européenne, Eric Biegala. Et ils sont d'ailleurs en léger recul par rapport au pic migratoire de 2016.
L'étude, la seconde du genre pour le Pew Research Center, ne porte que sur ce que les chercheurs appellent l'immigration non autorisée, c'est-à-dire les immigrés illégaux, les clandestins bien sûr, mais aussi les demandeurs d'asile, dont la demande est toujours en souffrance. Ils étaient tout de même 1 million dans ce cas-là en 2017, année de référence de l'étude. En tout, le Pew Research Center estime à entre 3 900 000 et 4 800 000 le nombre de ces immigrants non autorisés en Europe. Et ce sont deux pays, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, qui à eux deux concentrent la moitié de ces immigrants. Ensuite l'Italie avec une estimation entre 500 et 700 000 immigrants non autorisés sur son territoire, puis la France en quatrième position avec entre 300 et 400 000 personnes dans le même cas. Autre donnée plutôt contre-intuitive issue de cette étude, la provenance de la majorité de ces immigrants non autorisés. Ils viennent d'abord en priorité de la zone Asie-Pacifique, plus de la moitié des clandestins en Grande-Bretagne par exemple. Arrivent ensuite les Européens eux-mêmes qui comptent pour 23% de ces immigrants non autorisés en Europe. Enfin les immigrants issus du Maghreb, Moyen-Orient et d'Afrique subsaharienne n'arrivent qu'en troisième et quatrième position.
Encore un prix pour Karine Thuil, l'Interallié hier, le Goncourt des lycéens aujourd'hui, Les choses humaines a aussi séduit le jury des lycéens. C'est le 11e roman de l'écrivaine et le 4e cet automne pour Gallimard après Le Renaudot, Le Fémina et donc l'Interallié avec le Goncourt des lycéens. Il y aura du monde mardi à Saint-Léonard de Noblat, du monde et des vélos sans doute pour les obsèques de Raymond Poulidor. La cérémonie est prévue à 10h dans la collégiale de ce village du Limousin où le champion s'était installé très jeune et où il est mort hier à 83 ans. Du monde aussi au Stade de France ce soir pour le match des Bleus en qualification pour l'Euro l'an prochain. L'équipe de France face à la Moldavie. Bonsoir Guillaume Batin.
Bonsoir Sébastien.
Et le retour de Kylian Mbappé.
Oui, Kylian Mbappé qui a vécu un début de saison en pointillé. Il a manqué les deux derniers rassemblements de l'équipe de France, handicapé par une déchirure musculaire à la cuisse gauche. Au PSG, son club, on n'a pris aucun risque, surtout en l'absence de Neymar, habitué aux longues périodes d'absence pour blessure. Mais à 20 ans, la star des Bleus s'est rapidement refait la santé. De retour en Ligue 1 face à Nice, il a très vite marqué un but. À Dijon aussi, malgré la défaite du PSG, mais il s'est montré brouillon en Ligue des Champions face à Bruges. Le revoilà donc en bleu pour une 34e sélection et pourquoi pas le voir intégrer le top 20 des meilleurs buteurs de l'équipe de France aux côtés de Dominique Rocheteau et Hervé Revelli. Didier Deschamps, le sélectionneur, devrait le titulariser sur le côté droit de l'attaque proche d'Olivier Giroud et Antoine Griezmann. Et ses coéquipiers comptent sur lui pour accélérer le jeu des Bleus face à la passoire moldave qui a encaissé pas moins de 19 buts en 7 matchs dans cette campagne de qualification pour l'Euro 2020.
Guillaume Batin en direct du Stade de France et à propos des meilleurs buteurs en bleu. Thierry Henry revient, lui, pour l'instant, il est toujours le meilleur buteur de l'équipe de France. Il revient dans le championnat d'Amérique du Nord. Le champion du monde 98 a joué aux Red Bulls de New York. Il devient entraîneur de l'Impact Montréal pour 2 saisons au moins. On rappelle son expérience sur le banc à Monaco qui n'avait duré que 3 mois.
Allez, on lui souhaite que ça dure plus longtemps. Oui. Donc Sébastien Pao, merci beaucoup. On se retrouve demain. On reste ensemble, nous, évidemment, pour le téléphone sonne. Comment sauver l'hôpital ce soir? Sinon, chaussettes demain.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, prune ou rouge, de toutes les couleurs. Fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Élodie Calac, de la neige en vallée du Rhône.
Et oui, ça reste très agité, de la neige jusqu'en plaine, de la Drôme et de l'Ardèche vers la Saône-et-Loire. Il neige en ce moment de Valence jusqu'à Lyon. D'ici la fin de nuit prochaine, on attend des quantités importantes, de l'ordre de 10 cm, parfois jusqu'à 20 à 30, 20 à 40 dès les premières hauteurs. Sur la Provence, là, sur la pluie s'est éloignée. Les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse sont sortis de la vigilance orange. En revanche, le Var est maintenu pour la soirée. Attention aussi au débordement de cours d'eau sur le Var et puis au risque de submersion sur le littoral.
Et demain, il neige encore, Élodie.
Oui, du nord de Rhône-Alpes au Val-de-Saône, sur les Vosges et sur le Jura également. Du nord-est vers le centre, le bassin parisien, le nord de la Seine, ce sera de la pluie. Elle glissera vers la Bretagne l'après-midi. Un temps plus sec s'installera à l'après-midi du Lyonnais jusqu'au nord-est. Ailleurs, ce sera nuageux avec des averses près des Pyrénées, en Corse, des averses aussi autour de la Méditerranée l'après-midi. Et puis, il fera plus froid, souvent moins 2 à 4 degrés le matin, jusqu'à 10 l'après-midi.
Élodie Calac de Météo France. Merci beaucoup.